Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
La consommation d'alcool pendant la grossesse, c'est la première cause de handicap mental d'origine non génétique chez l'enfant. Malformations, difficultés d'apprentissage, troubles de l'attention et du comportement. En France, ils sont chaque année 8000 enfants à naître avec le syndrome d'alcoolisation fœtale. C'était hier la journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale. Tous les 9 septembre, objectif, évoquer les conséquences néfastes de l'alcool consommé pendant la grossesse. Nous en parlons ce matin avec nos invités. Éric Ispar est médecin addictologue à l'hôpital Fernand Wiesel à Paris. Par téléphone, nous accueillons le docteur Meïssa Neka, médecin au CHU de La Réunion et médecin coordinateur addictologue du centre ressources EDCAF, c'est du côté de La Réunion. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Alors tout d'abord, docteur Meïssa Neka, bonjour. Qu'est-ce que le syndrome d'alcoolisation fœtale?
Alors bonjour. Donc le syndrome d'alcoolisation fœtale, c'est en fait un syndrome qui va être dû au fait que la maman s'alcoolise pendant la grossesse. Ça va se traduire par quoi? Par un enfant qui va avoir un retard de croissance, qui va avoir une bouille particulière avec des petits yeux, des petites lèvres. J'en dirai pas plus pour pas que tout le monde se regarde dans le miroir et se dise « Est-ce que j'ai un SAF ?»
Oui.
Il y a pas mal de malformations aussi, que ce soit cardiaque, que ce soit au niveau des reins et autres. Et puis surtout, l'alcool, la maman boit, le placenta ne filtre pas l'alcool, donc le cerveau du bébé reçoit tout l'alcool de la maman. Or, il faut savoir que le cerveau du bébé commence à se fabriquer dès le premier jour de la conception et tout le long de la grossesse et même après. Donc forcément, on y met un produit toxique, forcément, ça aura des conséquences, avec des troubles neurodéveloppementaux, entre autres, effectivement, une déficience intellectuelle. Ils ont souvent un QI un peu plus bas, voire beaucoup plus bas que la moyenne. Les difficultés surtout d'apprentissage et d'adaptation à la société.
Meïssa Neka, est-ce que les troubles causés par l'alcoolisation fœtale auront des conséquences jusqu'à l'adolescence, avec des effets psychologiques et un risque accru d'alcoolisme ou de toxicomanie?
Alors oui, alors déjà ce que je voudrais juste préciser, c'est que le SAF, le syndrome d'alcoolisation fœtale, c'est un petit bout de l'iceberg. Malheureusement, ça, j'allais dire, à la naissance, on le voit facilement. Après, il y a l'ensemble des troubles qui sont dus à l'alcoolisation fœtale, qui eux vont être souvent diagnostiqués, voire non diagnostiqués, beaucoup plus tardivement. Et pour répondre à votre question, malheureusement, j'allais dire, le fait d'avoir eu de l'alcool pendant la vie fœtale va avoir des conséquences tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on va avoir un enfant qui, tout petit déjà, va marcher beaucoup plus tardivement, aura du mal aussi à s'exprimer. Puis surtout, ça va être au moment des apprentissages où il aura du mal au niveau scolaire. Déjà, il y a une sorte d'impulsivité, il y a une agitation. Et puis des troubles au niveau des apprentissages. Ils ont beaucoup de mal avec le calcul. La table de multiplication, c'est quelque chose de compliqué. Tout ce qui est abstrait va être compliqué. Et tout ça va aller en s'aggravant, j'allais dire. Donc souvent, ça va être des enfants qui vont être déscolarisés. Donc il y a un échec scolaire, malheureusement. Ça va être aussi des enfants qui ont une impulsivité, qui ont du mal aussi avec les règles sociales et qui ont du mal à comprendre un petit peu comment fonctionnent les autres. Donc beaucoup de problèmes de justice. Et puis aussi, malheureusement, des problèmes d'addiction, puisque malheureusement, plus de la moitié peuvent développer une addiction eux aussi. Donc j'allais dire, malheureusement, la chaîne continue. Ils auront du mal aussi par rapport au monde du travail. Et ces troubles-là, si rien n'est fait, ne peuvent effectivement que perdurer tout au long de la vie.
Docteur Éric Ispar, bonjour.
Bonjour.
Rappelons que vous êtes médecin, addictologue à l'hôpital Fernand Wiesel à Paris. Est-ce que vous, dans votre service, vous rencontrez beaucoup de femmes enceintes qui consomment de l'alcool? Et comment pouvez-vous nous donner un peu des chiffres concernant l'ampleur du phénomène?
Eh bien, je voudrais surtout dire que dans notre service, bien entendu, il y a 48 lits et des 24 lits de sevrage complexe, en tous les cas, de personnes qui sont dépendantes. Donc, bien entendu, cette cohorte de personnes dépendantes fait qu'il y a des femmes qui, bien entendu, devront être accompagnées et, pour certaines, faire des sevrages et peut-être être accompagnées pendant quasiment toute la durée de la grossesse pour éviter, bien entendu, cette problématique. Donc, moi, je vois une partie de l'ensemble. Par contre, je pense que il est essentiel dans notre pays, et bien plus large au niveau mondial, et bien plus large au niveau de l'Afrique, puisqu'on y est particulièrement présent ici, en saluant l'équipe de l'île de la Réunion qui a relancé ce silence dans les années 2000. Il y a eu deux études importantes qui sont parties de l'île de la Réunion et du CHU de Lille en métropole, qui ont osé relancer cette question-là. Donc on dit à peu près un enfant sur 1000 grossesses, et bien entendu c'est sous-coté, parce qu'entre la description que faisait notre collègue de ce SAF avec un morphotype, vous voyez, quelque chose de terrible, il faut dire qu'actuellement il y a une cohorte à l'île de la Réunion qui suit ces enfants de façon extrêmement scientifique et maîtrée. C'est quelque chose qu'on avait décrit dans les années 60 en France, à Nantes, et qu'il y a eu pas de souci, il n'y a rien à voir et il n'y a pas de souci. Il y a un silence terrible au niveau de la grossesse des femmes, oui, qui sont interrogées maintenant très clairement sur leur prise de, par exemple, de tabac, et beaucoup moins sur leur prise d'alcool. Oui. Et ça, que votre émission invite tous nos confrères à pouvoir effectivement préparer une femme à une grossesse. Est-ce que je prends des produits? Est-ce que je prends... j'entendais tout à l'heure votre émission sur le crack, où c'est tellement important, vous imaginez. Mais si on revient sur la question banale de l'alcool, on a fait un alcool zéro pendant la grossesse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de seuil.
Oui.
Et il est très important aussi de déculpabiliser les jeunes femmes d'avoir été consommatrices très ponctuellement, et pour autant ne pas avoir un enfant qui risque d'avoir... ce syndrome de SAF. Donc je pense qu'il est très essentiel qu'à la fois on soit moderne dans notre manière de penser la grossesse des femmes, quand elles le peuvent, oui, c'est-à-dire effectivement, est-ce que j'ai des conditions de travail et de vie qui sont correctes? Est-ce que je suis obligé de prendre des médicaments? Est-ce que, oui, je prends des produits psychoactifs? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que je travaille en horaire décalé? C'est comme ça qu'on a des interruptions de grossesse, je veux dire, très, très importantes. Et la grossesse n'est pas que le seul élément qui à prendre en compte pour la question simplement de sauver l'enfant, en gros. Hein, donc moi, ce que je vois par rapport à la question que vous me posiez, c'est des patientes qui sont dépendantes et qui effectivement, on va aider particulièrement pendant le temps de leur gestation. Et puis après, des fois, malheureusement, ça repart dans le silence. Et quand vous évoquiez, donc, ma consultation actuellement, qui est sans doute extrêmement puissante en termes de nombre,
oui,
et aussi dans un XAPA, il y a des structures médico-psychosociales qui sont non payantes, et il faut qu'on aille voir où il y a des médecins, des psychologues, des intervenants sociaux, exactement comme ça se fait. Tout ça pour dire que dans ce silence, il y a la culpabilité, et on reprend qu'au fond, à une époque, les femmes n'osaient même pas parler de leur alcoolisation, on ne les interrogeait pas sur leur consommation d'alcool, et que derrière, évidemment, il y avait ce drame qui était en train de se constituer. À ma consultation, je vois une personne sur deux qui a un problème de mésusage de leur consommation d'alcool, qui ont eu un des deux parents qui l'avait. Donc une nouvelle fois, cette chaîne qu'évoquait ma collègue,
oui,
sans parler de SAF, mais il est évident que, bien entendu, on voit combien l'impact est pour des dizaines et des dizaines d'années. Donc, je pense que l'émission que vous faites aujourd'hui de sensibilisation, qui fait qu'il faut vraiment qu'on brise ce silence, et on voit actuellement que certaines jeunes femmes se mettant à ne plus consommer d'alcool sont très vite désignées par le groupe. Ah 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 !
Oui.
Et pourquoi ?
Oui, oui.
Et bien entendu, tu es enceinte. Et vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est terrible, parce qu'on voit qu'il y a toujours un jugement du regard de l'autre sur les consommations d'alcool. Et qu'elles soient potentiellement enceintes ou pas, je veux dire, il faut que les femmes puissent avoir la dignité de pouvoir dire « je fais comme je le souhaite ».
Alors, les messages de prévention en France est tolérance zéro, hein, vous venez de le dire, docteur Eric Ispar. Alors, Meissa Oneka, est-ce qu'un seul verre de vin est dangereux pour la femme enceinte?
Alors... Est-ce qu'un verre de vin est dangereux? Ben, malheureusement, je ne peux pas dire non, il n'est pas dangereux. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour ça que le message est zéro alcool pendant la grossesse, mais je préciserai même avant la grossesse. C'est-à-dire dès qu'on a l'idée de vouloir un bébé, effectivement, c'est zéro alcool. Et aussi, il va falloir penser au papa, car il apporte quand même la moitié du capital génétique. Et on sait que le spermatozoïde peut aussi être touché par les effets néfastes de l'alcool. Donc, ceci va se transmettre à l'enfant. Donc, dès qu'on a envie d'avoir un bébé, bah, papa et maman, les futurs papa et maman, doivent effectivement faire le zéro alcool. Donc, pourquoi zéro alcool? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas de normes qui peut nous dire bah, un verre, c'est en danger. Parce qu'en fait, quand vous consommez de l'alcool pendant la grossesse, vous avez tout notre matériel génétique qui est en train qui s'est mis en place pour nous aider bah, à fabriquer notre cœur, nos reins, enfin tous les organes. Et dans ces séquences-là, on sait que certains gènes vont se mettre à marcher tel jour et puis d'autres vont s'éteindre ensuite. C'est-à-dire qu'il y a toute une mécanique qui se met en place. Vous mettez dessus un toxique, par exemple, je ne sais pas, moi, J4, quatrième jour, je bois de l'alcool. Or, ce jour-là, mon gène, il n'aurait pas dû être excité et je n'aurais pas dû, normalement, le mettre en marche. Or, l'alcool va le mettre en marche. Ça peut créer des dégâts. C'est pour ça qu'on dit zéro alcool. Donc, pour répondre à votre question, une maman, moi, qui me dit bah, « j'ai bu un verre », écoutez, a priori, il y a de fortes chances que ce soit négatif, mais on va simplement surveiller la grossesse pour voir ce qu'il en est. Ce qui est dangereux, souvent, oui, c'est les alcoolisations massives du premier trimestre. Or, souvent, vous avez, et on voit beaucoup de femmes et d'hommes qui consomment de façon, j'allais dire, sur un temps donné et non pas tous les jours, donc on va dire bah, y a pas de problème d'alcool. Lors d'une soirée, on voit beaucoup de jeunes qui boivent 10 unités, pour eux c'est classique, il n'y a rien d'extraordinaire. Or c'est déjà des consommations au-delà des normes et effectivement ils risquent d'avoir une grossesse. C'est cette maman qui n'était pas forcément désirée, or elle a eu une grosse consommation d'alcool et là il va y avoir effectivement un effet. Donc du moment que tu as une consommation lors de la grossesse, ce qui est important, c'est effectivement de ne pas culpabiliser, de ne pas juger, mais simplement de pouvoir en parler pour avoir une surveillance accrue. On n'est pas tous égaux. Il y a des mamans qui ont bu de façon comme ça, ponctuelle, il n'y a aucun effet sur le fœtus, et puis d'autres qui n'ont pas beaucoup bu, et il y a déjà un effet sur le fœtus. Pourquoi ? D'accord. Parce qu'on n'a pas tous la même façon d'éliminer l'alcool. On a un foie qui ne travaille pas de la même façon d'une personne à une autre. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas capable de dire, bah non, écoutez, vous pouvez y aller, un verre, c'est sans souci. Non, on ne peut pas le dire. Donc, c'est pour ça qu'on préconise zéro alcool tout au long de la grossesse, et j'insiste, en préconceptuel, dès qu'on a envie de faire un bébé, c'est zéro alcool chez le papa et chez la maman.
Alors, justement, pourquoi les campagnes de prévention s'adressent principalement aux femmes? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi adresser des messages de prévention aux hommes?
Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Alors, déjà, le fait que l'effet sur les spermatozoïdes, c'est quelque chose quand même de plus récent, donc on n'avait pas d'argument, j'allais dire, scientifique. Après, j'allais dire aussi, c'est une aide aussi, parce que si dans le couple, il y en a un des deux qui consomme, qui pousse à la consommation, c'est compliqué pour la femme, sans même avoir de dépendance à l'alcool, hein. Mais comme l'a très bien dit mon collègue, une jeune femme, ou même un jeune homme qui ne boit pas, est vu par la société comme s'il avait un problème. C'est quelque chose qui devient anormal. Et boire devient quelque chose de normal. C'est là où ça pose question, effectivement. Donc, on doit effectivement sensibiliser le papa et la maman, ne serait-ce que par le capital génétique et puis par le soutien qu'il peut apporter à la maman. On peut très bien faire la fête sans boire et s'amuser. On n'est pas obligé, j'allais dire, de consommer pour être bien. Et c'est justement, si on consomme pour être bien, c'est là où on se pose la question. Entre le plaisir et la dépendance, la limite, elle est fine.
Docteur Eric Ispar, quel est le profil des femmes enceintes qui boivent de l'alcool? Est-ce que ce sont souvent des femmes célibataires ou des femmes en couple, mariées?
Je dirais pas ça comme on le comprend bien. Il y a deux temps. Les femmes qui vont procréer, qui sont enceintes, sont plutôt des jeunes femmes, qui étaient plutôt dans un milieu, effectivement, comme on le voit actuellement, où la parité de l'alcoolisation est claire dans les soirées, dans les terrasses telles qu'on les voit réanimées ces derniers temps. Voilà, les jeunes femmes consomment quasiment globalement autant que les jeunes messieurs. Il y a un petit peu plus de jeunes messieurs, mais globalement, donc, ce sont plutôt des jeunes femmes, par définition, oui, et qui sont peu étiquetées déjà ayant un mésusage d'alcool.
Oui.
Alors ça, je pense qu'il faut vraiment faire cette séparation. Donc là, on est dans une émission où la prévention est tout à fait essentielle. Et vous lisiez, madame, en tout début, oui, quand on prépare sa grossesse, etc., malheureusement, la plupart des femmes, encore actuellement, ne choisissent pas exactement comment elles vont maîtriser leur souhait ou pas de grossesse. Et ça, je pense qu'on s'adresse aussi à des personnes qui n'ont pas tellement ces choix-là. Donc, il faut savoir aussi que dans le syndrome alcoolo-fœtal, c'est plutôt les enfants de fin de fratrie qui sont les plus touchés. Ça veut dire qu'il y a eu donc un déficit à ce moment-là d'attention médicale, psychologique, sociale autour de ces femmes. Donc une nouvelle fois, c'est un signe d'alerte. C'est pour ça que c'est très juste de dire que si le père est présent, est là, il faut aussi travailler la question du père. Donc oui, les prises de risque actuellement, de jeunes femmes, font qu'elles auront peut-être une conception, alors que bien entendu, elles ne le souhaitaient pas. Ce qu'il faut dire vraiment, c'est qu'il faut toujours ne plus avoir la difficulté de pouvoir aller voir un médecin généraliste, quelqu'un, etc., ouais, pour pouvoir se faire accompagner, aider, hein, et que c'est pas simplement est-ce que j'avorte, entre guillemets, interruption de grossesse ou pas, est-ce que j'ai des manœuvres, je veux dire, pour essayer de faire que ça ne se prolonge pas, et que d'autre part, c'est un temps, oui, 9 mois, c'est un temps essentiel, mais qu'un petit temps, bien entendu, par rapport à l'histoire de vie. Et que, bien entendu, l'accompagnement familial, l'entourage et le développement est tout à fait essentiel à ce moment-là. C'est des signes d'alerte. Donc, pour revenir à votre question, je peux vous parler longuement de patientes que j'ai accompagnées et qui ont fini par avoir un très beau bébé.
Oui.
Et il ne faut surtout pas dire que des personnes ayant eu un problème d'alcool, de mes usages,
oui,
s'étant stabilisé, ne pourraient pas avoir d'enfants, que ça soit homme ou femme, vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi des messages très importants. C'est-à-dire qu'une nouvelle fois, mes patientes sont de très bonnes mères, vous voyez ce que je veux dire. Et ça aussi, c'est des images très essentielles. Que de pouvoir dire qu'on a un problème, je veux dire, avec l'alcool, ne veut pas dire que tout d'un coup, le service social va vous retirer l'enfant. Mais ça, c'est ce que pensent la plupart des mères. Et donc, il faut bien entendu que petit à petit, on s'ouvre à l'idée très mature de dire, oui, il y a une prise de risque, il y a une consommation. Vous avez vu, effectivement, le mot consommation qu'il faut qu'on ait.
Oui.
Trouble de l'usage.
Oui.
Hein, et qu'une nouvelle fois, ce n'est pas quelque chose qui, évidemment, doit être nommé. C'est une alcoolique. Et donc, évidemment, il faut qu'elle n'ait pas d'enfant, etc. Par contre, quand effectivement la grossesse est établie, il faut qu'elle soit accompagnée. Et c'est évidemment quelque chose de tout à fait essentiel. Il faut que votre émission, comme on le fait sans relâche, vous savez, je faisais partie de la Société française d'alcoolologie quand on a décidé cet alcool zéro, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on n'avait pas de seuil, comme l'a très bien évoqué ma collègue. Vous voyez, ça a été réactivé en 2000, les années 2000, donc ça fait une génération où on commence à reparler de cela.
D'accord.
Donc ça veut dire que vraiment, on est dans quelque chose qui est très essentiel, de pouvoir distiller cette ouverture de parole, c'est tranquille, et que les jeunes femmes actuellement qui n'ont aucun problème de mes usages, mais qui ont fait la fête et qui se retrouvent, et qui sont peut-être enceintes, doivent simplement être accompagnées. Voilà ce que je vais marteler au cours de ce temps que nous avons.
Ouais. Alors docteur Maïssa Nekar, est-ce que pour certaines femmes enceintes, la grossesse est un moment de fragilisation susceptible de les conduire à démarrer une consommation d'alcool ?
Je dirais que chaque cas est différent. Malheureusement, par exemple, dans certains cas, il ne faut pas faire des généralités. C'est là où il faut être un peu vigilant, et je rejoins mon collègue. Il ne faut pas non plus stigmatiser les femmes qui consomment. Mais il est vrai qu'on sait, par exemple, quand il y a des violences conjugales, que l'alcool, malheureusement, aide à supporter les coups. Et que lorsqu'on est enceinte et fragilisée, effectivement, si la violence est encore là, ça peut favoriser des consommations aussi. C'est pas parce qu'on va être enceinte, malheureusement, qu'on va arrêter. Il y a vraiment plein de tableaux. Et souvent, j'allais dire, malheureusement, on fait aussi des raccourcis dans le sens où les femmes qui consomment, on a l'impression qu'elles ont toutes des problèmes sociaux, des problèmes de violence conjugale, des problèmes... Ce qui n'est pas la réalité totalement. Vous avez aussi des femmes qui sont cadres sup, qui sont bien insérées, qui semblent être bien et qui pour autant consomment, car malheureusement, l'alcool, c'est un bon anxiolytique, ça calme les angoisses, ça calme les douleurs, et donc le corps s'habitue, on augmente les doses. Et quand la grossesse arrive, on ne change pas forcément ses habitudes par méconnaissance ou aussi par difficulté. Et c'est vrai, ce qui est important, c'est de pouvoir libérer la parole, ne pas être dans le jugement, ne pas être dans la culpabilité. Et je rejoins mon collègue, c'est maman, moi j'ai suivi beaucoup de mamans, j'ai travaillé en addicto, en centre hospitalier, rien que ça pas. on a des mamans qui arrivent et qui vont avoir des enfants qui vont très bien parce qu'elles ont été accompagnées, mais c'est quand même difficile pour une femme de venir à la consultation, sans parler du fait quand elle est enceinte, parce que c'est une femme qui boit, ben, tout de suite, il y a un côté négatif aussi de la société. Et en tant que maman, mon collègue l'a dit, la maman qui consomme va avoir peur qu'on lui place son enfant. Donc souvent, elle ne va pas parler. On va lui dire, même si on lui dit « est-ce que vous consommez ?», elle va dire non, et on passe à autre chose. Simplement, et on le voit, et effectivement, à la Réunion, dans le centre ressources, il y a des fratries, des familles complètes qui sont suivies. Ce qui est triste, c'est qu'on a la répétition du même comportement de grossesse en grossesse, avec des enfants qui sont placés, et j'allais dire la peur du placement va faire que la parole ne se libère pas. Donc c'est vraiment les accompagner, ne pas les juger, et il y a des moyens, voilà. Et souvent elles sont dans l'isolement, c'est ça qui est difficile.
Alors justement, quels sont ces moyens, docteur Eric Ispar? Comment soigne-t-on les femmes enceintes qui ont déjà une addiction à l'alcool?
Je crois qu'elles sont à ce moment-là dans la même dimension que d'une nécessité de sevrage. Donc effectivement, pour qu'on arrive à l'alcool zéro, à la fois pour la grossesse, mais aussi pour la personne, parce qu'une nouvelle fois, là on n'est pas à un verre, vous voyez ce que je veux dire, on a une bouteille, vous voyez, je parle de bouteille d'alcool fort, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Moi je vois des personnes qui sont dans le dur, comme sûrement dans tous les services d'addicto, on a des consommations terrifiantes, vous voyez ce que je veux dire, en termes de... Donc là, il y a deux temps. Je voulais revenir sur la question que vous me posiez tout à l'heure, sur la question de l'hospitalier.
Oui.
Nous ne sommes pas, en tout cas je le pense, en tout cas dans le service à Fernand Vidal, dans le service de médecine addicto, bien équipés pour s'occuper d'une femme enceinte. Par contre, il y a des équipes de liaison. Il faut investir les services d'obstétrique. Quand on est tout d'un coup une sage-femme qui est formée en addicto, ça change tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les équipes de liaison qu'on connaît dans toutes les structures hospitalières doivent aller distiller effectivement une formation auprès des équipes qui sont proches de ces femmes. Et ça, je crois que c'est comme ça qu'on fonctionne correctement.
Oui.
Parce qu'une femme dans un service où il y a 24 personnes, 30 personnes, et qui est elle, la femme enceinte, vous voyez, etc., se sent pas très à l'aise, bien entendu, et puis c'est pas notre métier.
D'accord.
Donc je crois qu'il faut vraiment faire appel pour revenir à... Donc on doit faire un sevrage. Comme avec tout le monde, et ça se passe très bien actuellement. Une nouvelle fois, on est bien équipé pour savoir accompagner tous les sevrages. Et d'autre part, il faut bien entendu qu'il y ait quelque chose qui soit une adaptation à cette logique d'être une femme qui est en train de concevoir un enfant, mais qui est une femme globalement. Moi, je vois souvent, malheureusement, des femmes qui ont été tout à fait entourées dans les endroits où c'est possible, et qui étaient un peu laissées pour compte après. Donc je reviens sur l'idée que les équipes de liaison qui ont été inventées et sont pertinentes. Je peux vous dire qu'avant les années 2000, il y a eu des fonds qui avaient été dédiés à faire de la prévention, qui avaient été refusés dans les hôpitaux qui faisaient de l'obstétrique. C'est vous dire qu'on part de très loin, et vive votre émission.
D'accord. Docteur Meissa Neka, comment l'entourage peut aider les femmes enceintes qui ont un problème avec l'alcool? Parce que le docteur Ispar parlait de l'importance de l'entourage. Quel est votre sentiment à ce sujet? Quel rôle peut jouer l'entourage?
Oui, ben, l'entourage a un rôle important par le soutien et par le non-jugement et aussi par libérer la parole. Parce que souvent, on se rend compte, et en dehors même de la femme enceinte, vous avez dans un groupe d'amis quelqu'un qui a un problème d'alcool. Les autres voient bien qu'il boit plus, qu'il boit très vite, qu'il est souvent ivre. Même dans le milieu du travail, on ne dit rien. Parce qu'on se dit, ben non, le pauvre, je vais le gêner. Et finalement, ne rien dire, ça augmente ce qu'on appelle le déni. C'est-à-dire que quand on ne dit rien, la personne a l'impression qu'elle contrôle sa consommation. Ce n'est pas le cas. Donc l'entourage, c'est d'être aidant. Alors ne pas être culpabilisant une fois de plus, mais être aidant. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, le papa, pour le bien-être du bébé, ne consomme pas. Et le reste de la famille, c'est-à-dire prévoir, quand on fait une soirée familiale, des boissons non alcoolisées pour que justement la maman puisse aussi participer sans être obligée de se sentir à l'écart. C'est être soutenant et surtout, être présent et ne pas inciter à consommer. Combien de fois on voit dans l'entourage, même le conjoint ou d'autres membres de la famille, qui vont dire « Ah non, mais un verre, tu peux, quand tu es enceinte, il n'y a pas de souci, hein, ou deux verres, ce n'est pas un problème. » Eux-mêmes n'ont pas la connaissance, en fait, du message. D'où l'importance, j'allais dire, des émissions comme vous faites, de cette journée internationale du syndrome d'alcoolisation fœtale.
Oui.
Car si on veut prévenir, faire qu'il y ait moins d'enfants porteurs de SAF, on a dit 1 pour 1000, et de troubles causés par l'alcool, 1%, c'est énorme, ça passe par la connaissance. C'est-à-dire qu'il faut qu'un maximum de personnes soient au courant que pendant la grossesse et avant, c'est zéro alcool. Or, à l'heure d'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de consommation, j'allais dire, les jeunes consomment de plus en plus. Donc, c'est important que la connaissance soit là.
Merci.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaie de former au plus tôt, de donner cette information chez les jeunes, dans les lycées, dans les collèges, pour qu'ils sachent ce qu'il en est.
Merci.
Et je voulais juste...
Rapidement,
la taille du pictogramme, vous savez le petit dessin là, de la femme enceinte barrée,
oui.
Il pouvait être un peu plus gros, un peu plus lisible, un peu plus compréhensible, ça aiderait beaucoup pour la prévention.
Merci
aussi
à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation sur le sujet alcool et grossesse. Il y a la pause qui arrive dans un instant, l'émission sera téléchargeable sur le réseau d'Africa Radio dans quelques heures. Et n'hésitez pas à aller sur le site de Santé Publique France pour en savoir un petit peu plus sur le sujet. C'est la pause, on se retrouve pour Ambiance Africa dans un instant, bougez pas. Waouh.